France Inter.
Voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Combien de morts à Gaza ? Une étude de la très sérieuse revue scientifique The Lancet affirme que le bilan est beaucoup plus lourd que celui établi par le Hamas. 40% de morts en plus. Ces chercheurs ont employé une nouvelle méthode statistique. Explication dans un instant. À suivre encore l'épidémie de grippe qui déborde nos urgences. 87 hôpitaux ont déclenché leur plan blanc alors que le pic n'est pas encore atteint. Est-ce le signe de l'extrême faiblesse de notre système de santé ? Le ministre de la Santé, Yannick Noder, est l'invité de ce 13-14. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, lui dénonce l'attitude de l'Algérie qui a refusé hier soir d'accueillir un influenceur expulsé par la France pour appel à la haine.
On voit bien que l'Algérie cherche à humilier la France. On ne peut pas, la France ne peut pas supporter cette situation.
Un homme qui possède la nationalité algérienne, dit le ministre. Nous verrons ce qu'il va devenir. Nous serons également à Mayotte, en préalerte. Une tempête approche. À Los Angeles, la mégapole américaine continue de brûler et beaucoup d'habitants ne sont pas assurés. Et puis à Bordeaux, la ville la plus embouteillée de France. À partir de 13h30, on s'intéresse aux mots des Français à travers les générations. Des années 60 à aujourd'hui, notre linguiste Mathieu Avanzi publie Le fabuleux destin des mots. Il est notre invité. 01 45 24 7000 pour vos questions sur l'évolution du français et les nouveaux mots. 13h50, c'est la France au Cholet Basket. Un hangar qui sert de salle, l'une des meilleures formations au monde et un bar où l'on signe les contrats des joueurs. C'est Jean-Philippe Leclerc du journal L'Équipe qui raconte. Juste avant 14h, c'est une chanson, la comédienne Françoise Gillard, Dire Straits et Frédéric Pommier. Et puis des nouvelles de Violette d'Orange, notre navigatrice.
Et c'est ouf quoi, j'ai réussi à aller jusqu'au Cap Horn.
Elle a passé le Cap Horn ces dernières heures, elle va nous raconter. Voilà, vous avez le programme, merci de passer cette heure avec nous.
Inter.
L'enjeu est énorme pour Israël. Combien l'offensive de son armée à Gaza pour détruire le Hamas ? Après les attentats du 7 octobre, combien ces bombardements ont-ils fait de morts ? En l'absence de journalistes et d'observateurs internationaux sur place, seul est disponible le bilan du ministère de la Santé du Hamas, qui parle de 46 000 morts en 15 mois. L'ONU estime ce chiffre fiable. Mais Israël, de son côté, le dit très surestimé. Eh bien, l'une des revues scientifiques les plus sérieuses au monde, la référence pour beaucoup, vient de rendre les résultats d'une longue enquête sur ce sujet. The Lancet affirme qu'entre le 7 octobre et le 30 juin, date de la fin de l'enquête, le nombre de morts en fait était supérieur de 40% au chiffre du Hamas. On était donc à cette date, selon la revue, à plus de 60 000 morts. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Expliquez-nous d'abord comment les scientifiques ont travaillé.
Eh bien, vous le savez, Jérôme, depuis le début de la guerre, c'est une bataille de chiffres. Alors, sans jamais vraiment nier le bilan du ministère de la Santé du Hamas, les autorités israéliennes estiment qu'il est exagéré et elles considèrent qu'au moins la moitié des victimes sont ce qu'elles appellent des terroristes. Du côté de l'organisation islamiste, le bilan est régulièrement mis à jour sur la base d'identités relevées dans ce qui reste des hôpitaux et des morgues. Vous l'avez dit, aucun journaliste étranger ne peut travailler librement à Gaza et donc vérifier ces chiffres. Et c'est pour cette raison que l'étude publiée dans The Lancet est précieuse, car elle s'appuie sur trois sources, les statistiques du ministère de la Santé à Gaza, une enquête en ligne qui a permis à la population de signaler des décès, et puis des sources ouvertes sur les réseaux sociaux notamment, où des utilisateurs ont publié des nécrologies des défunts. En éliminant les doublons, les chercheurs arrivent donc à plus de 60 000 morts en 9 mois de conflit. 60 000 morts, c'est près de 3% de la population de Gaza avant la guerre.
Un dernier mot de cette méthode, Thibault, elle a déjà été utilisée, elle fonctionne ?
Oui, elle fonctionne. Selon plusieurs statisticiens interrogés par l'AFP, l'étude est convaincante, ces chiffres sont fiables et cette méthode dite de la capture-recapture a déjà fait ses preuves au Guatemala, au Kosovo ou en Colombie.
Bon, alors y a-t-il des réactions côté israélien ?
Alors rien d'officiel, mais les intentions sont très claires. L'État hébreu ne veut plus jamais revivre le 7 octobre. Il ne semble pas y avoir de limite pour éliminer définitivement la menace du Hamas. C'est d'ailleurs la teneur du message envoyé ce matin par le ministre de la Défense, Israël Katz. Il a ordonné à son armée de lui soumettre rapidement un plan pour éradiquer l'ennemi, en évoquant notamment la possibilité d'entraver encore un peu plus l'accès de la population à l'aide humanitaire.
Merci Thibault Lefebvre, correspondant de France. France Inter à Jérusalem. J'ajoute que ce matin, Israël a identifié le corps d'un nouvel otage retrouvé mort dans la bande de Gaza. Il s'agit d'Hamza Al-Zayadna, un bédouin enlevé par le Hamas avec son père alors qu'ils récoltaient tous deux des olives. Son père, lui aussi otage, a également été retrouvé mort. En France, le ministère de la Santé a donc fait ses comptes. Dans 87 hôpitaux du pays, le nombre de grippés admis aux urgences est tel que le plan blanc a dû être déclenché. Le plan blanc, c'est un plan utilisé en cas de crise pour déprogrammer certaines opérations ou rappeler des personnels en congé. Ce n'est pas encore le cas à Besançon, mais la situation à l'hôpital y est très tendue, nous dit Claire Cagny, elle est chef adjointe du service des urgences.
Bah nous, on est en situation dégradée. Notre service n'est pas du tout adapté à avoir autant de patients que ça. Donc on a, là depuis quelques jours, quand même plus de soignants qui viennent nous aider, nous renforcer. Après, on est un peu limité en termes de place. Les gens sont quand même sur des brancards et pas sur des lits. Déjà depuis 2-3 semaines, on a eu une majoration des appels au centre 15 avec un centre 15 qui était dépassé. La dernière fois que ça nous est arrivé, c'était au premier jour du Covid. La réanimation là qui commence à pousser ses murs et qui voilà, plein de patients à admettre, des patients intubés sur des pathologies respiratoires, c'est vrai que ça nous fait penser à la pandémie Covid quoi.
La chef adjointe du service des urgences au micro d'ici Besançon. Bonjour Yannick Noeder.
Bonjour.
Ministre de la Santé, merci d'être avec nous dans ce 13-14. Je vous donne la parole dans une minute. Avant cela, Victor Dolande. Bonjour Victor.
Bonjour Jérôme.
Pouvez-vous nous donner les dernières infos sur l'évolution de l'épidémie ?
Ça monte Jérôme, et avec un niveau d'intensité exceptionnellement élevé à l'hôpital, indique Santé publique France dans son dernier bulletin épidémiologique. C'est le cas dans toutes les régions du rouge, sur toute la carte de la France, sauf en Ile-de-France qui est en orange, le pic qui a été dépassé la semaine dernière. Concrètement, près de 16% des hospitalisations sont dues à la grippe, c'est très important et ça se traduit par des patients qui s'entassent aux urgences et qui attendent, on vient de l'entendre, dans les couloirs sur des brancards, d'où les plans blancs déclenchés dans de très nombreux établissements. Les personnes les plus touchées sont les plus de 65 ans et donc les plus fragiles. À noter également de très nombreux clusters dans les EHPAD. Tous ces indicateurs dans le rouge ont une autre conséquence sur la mortalité. 6% des décès enregistrés la semaine dernière sont dus à la grippe, c'est plus qu'à la même époque sur les deux dernières années. Toutes ces données interviennent alors même que l'épidémie de bronchiolite est en baisse et que le Covid est à un niveau bas. Enfin, dernier élément de comparaison, Jérôme, l'épidémie de grippe est plus forte que l'année dernière, mais elle n'a pas encore atteint le niveau de l'hiver 2022-2023, l'année de la triple épidémie. Une preuve, une de plus, que le système hospitalier est gravement malade.
Yannick Noeder, vous êtes rendu ce matin dans un hôpital parisien. Notre système de santé est à ce point affaibli qu'il ne peut encaisser un phénomène saisonnier de ce genre ?
Je crois que notre système de santé est en tension, naturellement. Donc moi, toutes mes pensées vont aux soignants qui sont en première ligne et qui vont faire face. Et je crois que le but, et tout mon ministère est mobilisé avec l'ensemble de l'action du gouvernement, c'est de rappeler aussi la nécessité justement d'une prise de conscience collective pour soulager nos soignants et de rappeler les gestes barrières. Nous sommes en pleine phase épidémique de grippe, donc ce n'est pas à ce moment-là qu'on lance une campagne de vaccination. C'est une campagne de vaccination qui a commencé au mois d'octobre. On tirera toutes les conséquences sur en fait le degré de participation et je pense qu'on ne vaccine pas assez et qu'il va falloir accentuer davantage la prévention par la vaccination de la grippe. Et là, dans l'urgence actuelle où nous sommes, nous avons à peu près 87, pour être précis, plans blancs qui sont activés partout en France sur à peu près 700 hôpitaux qui accueillent des urgences.
Mais 80, pardonnez-moi Yannick Noeder, 87 plans blancs déclenchés, c'est un plan de crise alors que manifestement la situation n'a rien d'exceptionnel si on la compare aux années précédentes.
Alors, je crois qu'il y a aussi un gros relâchement des gestes barrières et je crois que mon rôle en tant que ministre de la Santé avec l'ensemble des soignants et les médias vont y contribuer, c'est de rappeler qu'il faut soulager nos soignants, donc il faut rappeler les gestes barrières et je crois que ça paraît simple. On avait eu beaucoup moins de grippe, beaucoup moins de gastro-entérite pendant le Covid parce que nous étions très habitués aux gestes barrières. Il faut reprendre ces habitudes, il faut se laver les mains, ça paraît simple à dire, mais il faut le faire, il faut se laver avec du gel hydroalcoolique, mais avec du savon. Ça fonctionne aussi. Il faut éternuer, tousser dans le pli du coude et puis surtout mettre un masque. Je ne suis pas en train de vous dire à vous et à l'ensemble de vos auditeurs qu'on remet le masque en France, mais il faut pouvoir faire prendre preuve de responsabilité individuelle vis-à-vis des
on entend
faibles.
Ces gestes barrières.
Il faut
barrières.
Remettre un masque. Non, mais c'est important.
Bien sûr, Yannick Noeder, mais...
dire parce que dans les transports en commun, dans les lieux confinés, eh bien, il faut mettre un masque quand on a des symptômes, quand on tousse, quand on a de la température. Il ne faut pas aller aller cracher dans son environnement parce qu'il peut avoir des personnes vulnérables, des personnes fragiles.
Le message est passé, Yannick Noder, sur les gestes barrières. Mais est-ce que ça ne traduit pas tout simplement l'affaiblissement de l'hôpital depuis 5 ans?
Mais naturellement. Et justement, pour pouvoir rétablir un système d'hospitalisation fort, un système d'hospitalisation de santé et de médecine libérale forte, il faut du temps. On s'inscrit, je l'espère, dans une action de durabilité, de stabilité, pour pouvoir réformer notre système de santé. Il faut former très clairement plus de soignants.
Ça veut dire qu'à court terme, à part dire aux gens de mettre un masque et d'éternuer dans leur coude, vous ne pouvez rien faire ?
Non, ce n'est pas qu'on ne peut rien faire, on peut se réorganiser et surtout réenclencher un certain nombre de mesures dont je viens de vous parler, mais pour lesquelles il faut un budget pour la France, pour pouvoir mettre ces mesures de formation, en lien notamment avec les élus locaux qui sont fortement impliqués, notamment en lien avec les départements, les maires, mais aussi les régions qui vont former aussi tous ces professionnels de santé. Quand nous avons des lits fermés, c'est pas par souci d'économie, c'est que nous n'avons pas forcément de soignants. Donc moi, je veux pouvoir former davantage de médecins, davantage de soignants pour pouvoir soigner mieux et plus. C'est ce que les Français nous demandent.
Faut-il rendre obligatoire dans ce contexte la vaccination des soignants ? On a entendu en début de semaine un reportage ici même dans Stress 14 avec des soignants dans un EHPAD qui disaient « mais il y a trop de vaccins, moi je ne veux pas me faire vacciner contre la grippe ». Est-ce qu'il faut le rendre obligatoire pour les soignants ?
En tout cas, je pense que la question mérite d'être posée à l'heure où nous en sommes à ce niveau de contamination de la grippe. Je crois que la question m'a été posée à Cochin et je pense qu'il va falloir tirer les conclusions de ce nouvel épisode de grippe qui est fortement impactant, important. Et il faudra en tirer toutes les conclusions qui seront la pertinence des gestes barrières, de pouvoir davantage les diffuser, de refaire des campagnes de vaccination.
Vous y êtes favorable, vous, personnellement, à cette obligation de vaccin pour les soignants ?
En tout cas, je ne vais pas répondre à une question aussi importante comme ça sur une radio, mais je pense que c'est normal qu'on se pose cette question-là. Ça fait partie des droits et des devoirs, et je n'irai pas contre la communauté des soignants, mais c'est aussi dans l'intérêt de pouvoir préserver notre système hospitalier. Il faut qu'on soit vigilant vis-à-vis notamment des plus faibles, des plus vulnérables, et c'est quelque part un acte de protection de pouvoir, parce qu'on voit bien que toutes les formes graves sont essentiellement chez des gens qui ne sont pas vaccinés.
Merci Yannick Noder d'avoir répondu aux questions du 13-14 de France Inter aujourd'hui. Ministre de la Santé, on va parler d'un autre ministre maintenant, le ministre de l'Intérieur, parce que c'est ce qu'on appelle un retour à l'envoyeur. Les autorités algériennes ont refusé hier soir d'accueillir l'influenceur algérien qui avait été arrêté dans le département de l'Hérault et que la France voulait expulser en raison de ses appels à la haine lancés sur les réseaux sociaux. Interdit de territoire, a dit Alger hier soir. Cet homme est donc remonté dans l'avion direction la France où il est maintenant retenu dans un centre de rétention administrative. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
Vous allez nous éclairer sur ce bras de fer judiciaire dans un instant. D'abord, la réaction donc du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. C'était ce matin lors d'un déplacement à Nantes.
On voit bien que l'Algérie cherche à humilier la France. L'Algérie détient actuellement un grand écrivain, Boualem Sansal, qui est non seulement algérien, mais qui est aussi français. Et désormais, c'est ce ressortissant algérien qui propageait sur les réseaux sociaux la haine. Il n'y avait pas besoin d'avoir un laissez-passer consulaire, puisque la preuve qu'il était un ressortissant algérien était établie au moyen d'un passeport biométrique qui était valide. Les deux policiers qui escortaient dans l'avion cet influenceur sont descendus de l'avion. On leur a opposé un certain nombre d'arguments juridiques sans jamais, jamais leur fournir une preuve en termes de droit. Je pense que la France ne peut pas supporter cette situation.
Voilà, Bruno Retailleau, courroucé mais impuissant. Que va devenir cet homme, Ariane Grissel ? Est-ce qu'il va rester en France ?
Effectivement, du côté du ministère de l'Intérieur, on ne cache pas une certaine perplexité. C'est une situation inédite, confie un proche de Bruno Retailleau. Pour l'instant, cet influenceur, qui se fait appeler Doualem, doit rester en centre de rétention administrative en attendant son rendez-vous avec la justice, puisque ça, c'était déjà acté, hein, retour en Algérie ou non. Il doit être jugé le 24 février par le tribunal correctionnel de Montpellier pour ses propos tenus sur TikTok. On rappelle que l'internaute avait appelé à frapper un opposant algérien, selon le procureur. Donc, il y a ce procès. Et puis après, si le jugement lui permet d'échapper à la détention, eh bien, il pourrait être assigné à résidence et replacé en centre de rétention administrative à la moindre infraction. Mais il y a une durée limite à la rétention, 90 jours. Donc, vous l'aurez compris, tout ceci est assez flou et ne se réglera sans doute pas sur le plan judiciaire ou administratif, mais plus sur le plan diplomatique. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Bruno Retailleau ce matin en expliquant qu'il existait un éventail de possibilités pour convaincre l'Algérie, sans souhaiter les détailler et en renvoyant vers le président de la République.
Merci Ariane Grissel. Nous avons écouté Bruno Retailleau il y a un instant. Un temps, on a cru que sa simple présence dans le gouvernement Bayrou entraînerait sa censure par la gauche. Ce n'est visiblement pas le cas, non, ce sont les questions économiques qui sont au cœur des négociations en cours entre la gauche et le gouvernement. Nous demandons la suspension pour 6 mois de l'application de la mesure d'âge des 64 ans dans la réforme des retraites, le temps de renégocier. Voilà ce qu'indique ce matin le patron des sénateurs socialistes, Patrick Kanner. Cet après-midi, c'est le Rassemblement national qui sera reçu à Bercy. Et au rayon des propositions qui font leur chemin, cette fois pour faire des économies, il y a celle-ci. Elle émane du MEDEF et elle concerne les retraités. Bonjour Mathilde Dehimy.
Bonjour Jérôme.
Supprimer l'abattement pour frais professionnels dont bénéficient les retraités dans leur déclaration de revenus. De quoi s'agit-il ?
Article 158 du Code général des impôts, les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10% qui ne peut excéder un plafond de 4 321 euros. Le principe est calqué sur celui des actifs, il s'applique automatiquement. Pour les salariés, ces 10% permettent de compenser une partie des frais de transport, de restauration ou d'achat de matériel non fourni par l'entreprise. Rien de tout cela par essence concernant les retraités et la loi ne précise pas à quel titre ils sont exonérés. De là à dire qu'ils bénéficient d'une déduction sur des frais qui n'existent pas, Patrick Martin du MEDEF franchit le pas et pointe d'autres mesures, un abattement notamment sur la CSG des retraités qui pourrait selon lui être supprimé au nom de la solidarité nationale. Car dans l'effort budgétaire demandé à tous, les retraités pour l'instant s'en sortent. La censure a suspendu le budget et la désindexation prévue des retraites sur l'inflation. Cette niche fiscale de 10% coûte plus de 4 milliards d'euros. Elle était déjà dans le viseur période Barnier. Les parlementaires de l'ex-majorité ne sont pas d'accord entre eux sur ce sujet. Ils ont déjà débattu pour diminuer le plafond sans pour autant supprimer la niche.
Explication signée Mathilde Dehimy.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
La bataille se poursuit à Los Angeles pour tenter de contenir la progression des feux gigantesques. Ils sont 5 à ravager la mégapole américaine depuis le début de la semaine. Bataille aérienne avec hélicoptères et avions citernes. Et puis au sol avec le déploiement de plus de 7000 pompiers. Même des pompiers incarcérés ont été sortis de détention ces dernières heures pour apporter leur concours. Dernier bilan, au moins 10 morts et plus de 140 km² détruits. C'est une fois et demie la superficie de Paris pour éléments de comparaison. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
Les autorités américaines n'envisagent pas d'amélioration.
Oui, ce qui est impressionnant, c'est que la situation reste vraiment incontrôlable malgré le temps qui passe et les moyens mis en œuvre. Le fameux incendie de Pacific Palisade entre Santa Monica et Malibu a brûlé plus de 13 700 hectares. Hier, à cette même place, on parlait, si l'on peut dire, que de 6 400 hectares partis en fumée. Et cette propagation est valable pour les autres foyers avec des bilans provisoires qui vont de record en record. Entre 4 et 5 000 bâtiments détruits dans l'incendie d'Eaton. L'incendie baptisé Kenneth, lui, s'est propagé sur 400 hectares en quelques heures seulement. Et pour comprendre cette expansion folle, les dégâts estimés hier à 55 milliards ont triplé en 24 heures. On parle maintenant de 130 à 150 milliards de dollars. Pourtant, il y a quand même quelques petite bonne nouvelle. La première concerne l'incendie dit du Sunset dans les collines d'Hollywood qui serait maîtrisé. La seconde concerne le vent qui reste capricieux mais qui baisse. Il ne souffle plus à 160 km/h comme hier.
Merci Nathanaël Charbonnier. Alors on l'a dit, de nombreuses personnalités, Paris Hilton, l'acteur Anthony Hopkins ou encore Laetitia Hallyday ont vu leur villa détruite. Mais parmi les milliers de maisons réduites en cendres, certaines n'étaient pas couvertes par les assurances. Et Étienne Monin, on se rend compte avec ces incendies qu'une partie de la Californie n'était plus couverte, trop risquée pour les assureurs.
Et c'est la vice-présidente des États-Unis en personne qui s'alarme. Hier, Kamala Harris a pointé cet exode des assureurs en Californie. Pour elle, c'est possiblement une catastrophe à venir dans la catastrophe. Depuis quelques années, la Californie est victime du changement climatique. Les incendies sont récurrents. Beaucoup de compagnies d'assurance ont donc décidé de se retirer des secteurs à risque. Elles ont stoppé ou refusé de renouveler les contrats. Et ça tombe comme un couperet, explique Catherine Loubier. Elle est québécoise. Elle vit à Santa Monica. Interrogé par Radio-Canada.
On s'est fait dire il y a quelques semaines qu'on n'était plus assuré pour le feu par les compagnies d'assurance. Pourquoi? Parce qu'eux voient sur la modélisation où les feux vont aller. C'est une situation intenable. Il y a déjà des gens qui disent, les assurances nous disent, on ne vous paiera pas le plein prix, Là, on va avoir des problèmes sérieux et profonds dans cette partie de la Californie.
Ce phénomène grandit depuis 4 ans. D'après le New York Times, plus de 100 000 Californiens ont perdu leur couverture entre 2019 et 2024. Pour tenter de combler le vide, l'État de Californie a créé un système public. Il couvre presque un demi-million de personnes. Mais on s'interroge aujourd'hui sur sa capacité à résister à cette vague de dédommagement.
Étienne Monin, les scientifiques soulignent le rôle joué par le réchauffement climatique dans ces phénomènes. L'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée à l'échelle mondiale. La température du globe, température moyenne, a dépassé les 1,5 degrés au-dessus du niveau pré-industriel pour la 2e année de suite. Cela devrait tous nous alarmer, réagit le ministre britannique chargé de la neutralité carbone. Pas de réaction officielle en France. Ce qui nous conduit à Mayotte, où la population est à nouveau sur le qui-vive. La préfecture a déclenché ce matin une préalerte cyclonique à l'approche d'une dépression. Béatrice Duguay, vous êtes à Mayotte pour Inter. Bonjour Béatrice.
Bonjour.
Le phénomène devrait débuter demain soir avec des vents soufflant en rafale jusqu'à 100 km/h. Et cela ravive forcément, Béatrice, des souvenirs douloureux parmi la population.
Eh bien, la situation est tellement fragile ici, le traumatisme de Chido tellement frais que les Mahorais vivent avec l'angoisse d'un nouvel événement météo intense. Noélia, 11 ans, rencontrée en reportage tout à l'heure, nous a d'ailleurs spontanément demandé est-ce que ça va revenir.
Mais pourquoi on va pas nous aider pour voyager, au moins de rester à Mayotte comme ça, pour souffrir.
Difficile de la rassurer vraiment. La trajectoire de Dikeledi, tempête tropicale qui va frapper Madagascar d'abord, est incertaine. Ça n'est pas tant d'ailleurs le vent que les fortes pluies qui pourraient toucher Mayotte dimanche, voire lundi aussi. Or, il y a des tas de tôles, des tas de déchets encore à ramasser dans les rues. Les arbres sont cassés, scalpés. Ce qui fait craindre les coulées de boue à Ousseni Balaachi, secrétaire général de la CFDT Mayotte.
Il n'y a plus d'arbres qui pourra retenir les eaux et les enfoncer dans les nappes phréatiques. Ça va alourdir encore la situation de la population. Et on nous annonce comme quoi qu'il va toucher le sud et puis s'éparpiller. Là, je pense que là, je ne sais pas quoi vous dire là-dedans.
Préalerte lancée donc, ça veut dire mettre à l'abri, faire des réserves aussi pour des populations qui ont déjà tellement de mal à manger et à recevoir de l'eau.
Béatrice Duguay à Mayotte pour Inter. Ce matin, le groupe Les Républicains de l'Assemblée nationale annonce qu'une proposition de loi visant à restreindre le droit du sol à Mayotte sera débattue à l'Assemblée. Ce sera le 6 février prochain. En métropole, 7 départements sont en vigilance au cru aujourd'hui. L'Ille-et-Vilaine, le Calvados, l'Eure, la Seine-Maritime, l'Oise, le Val-d'Oise et depuis ce matin, le Maine-et-Loire. C'est un classement qui fait beaucoup réagir. Le classement des villes les plus embouteillées de France. Il a été établi par le fabricant de GPS TomTom. L'enfer des bouchons, titre ce matin à Marseille le journal La Provence. 3 jours perdus dans les bouchons à Lyon en 2024, nous dit le Progrès. Et puis Sud-Ouest. Sud-Ouest s'interroge sur la première place de Bordeaux, car c'est bien Bordeaux qui arrive en tête de ce classement, ville la plus congestionnée de France, devant Paris et même au plan mondial devant New York. Eh bien, les automobilistes bordelais, eux, semblent y croire, Alice Marot.
Yaya sort de son VTC, elle vient de déposer une cliente.
Quand je discute avec les clients, quand je suis dans les bouchons, je nous classe dans le top 3 des villes à bouchons.
Elle finit par ne même plus prendre certaines courses aux heures de pointe.
Ça m'arrive de débaucher avant les bouchons, ouais. Parce que sinon je travaille à perte. Une course qui peut m'être payée dans les 15 €, qui est censée durer 15 minutes, va peut-être me durer 45 minutes.
Juste à côté, Alan se met en route pour un dépannage. Le Sénonais aussi adapte tout son emploi du temps aux bouchons.
Midi, j'ai pris ma pause à 11h30 pour reprendre à 12h30, comme ça je savais que j'étais tranquille, quoi. Comme là, si je pars du bureau à 17h, ben là, c'est pas possible. Donc j'essaie toujours de quitter un peu avant.
Alex, lui, s'est fait une raison.
On patiente, comme tout le monde. Ça fait partie du travail.
Le spécialiste des fuites d'eau basé à Lormont sillonne le centre-ville toute la journée en camionnette.
Plus on va dans le temps, plus on est embouteillé. On voit une différence quand même sur une dizaine d'années en arrière. Mais Bordeaux-Centre, que ce soit à 8h du matin ou même 10h, c'est une horreur.
Alors ceux qui peuvent laissent la voiture au garage, comme Hugues et Bastien.
Non, en voiture, je pourrais pas.
Il y a des voies de bus aussi qui sont aménagées, donc ce qui est très pratique hein, quand on prend le bus, mais ça réduit fortement la voie pour les voitures. Alors tant mieux pour les transports en commun, mais c'est vrai que pour les voitures, c'est compliqué.
Tous les deux sont passés à la moto et au vélo pour aller au travail.
Reportage ici, Gironde. Nous recevions ici même, dans ce 13-14, mardi, Michel Catalano, Ben, l'imprimeur de Dammartin, celui qui a fait face aux frères Kouachi il y a 10 ans, il se raconte dans un livre. Et il nous a parlé notamment de ses origines familiales italiennes qui lui sont revenues à l'occasion de ce traumatisme. L'immigration italienne en France est un pan considérable de notre histoire. Et bien ce matin, un monument dédié à l'immigration italienne a été inauguré en région parisienne. Ça se passe à Nogent-sur-Marne, la ville des Ritales, le livre de Cavana dans lequel il rendait hommage à son père Luigi, un maçon venu d'Émilie-Romagne. Le nom de ces immigrés arrivés dans la commune est désormais inscrit sur des arbres en acier qui entourent ce monument. Reportage Mathilde Ansker.
Autour du monument, 4 grands arbres en acier, les yeux levés vers le ciel, Patrick Hippolito, 77 ans, cherche son nom gravé sur une toute petite feuille en inox.
Faut que je la retrouve. Elle est parmi toutes ces feuilles.
Il y a écrit quoi dessus ?
Le nom de mon père, le nom de ma mère, grand-père, grand-mère et les dates d'arrivée en France.
Pour lui, cette inscription, c'est une manière de rendre hommage à ses ancêtres qui n'ont pas forcément été bien reçus ici.
Quand ils sont arrivés en France, ils ont souffert. Quand j'allais à l'école, que j'entendais salle Rital, salle macaroni, je rentrais chez moi et je me mettais à pleurer parce qu'on attaquait mon père et ma mère.
Lui n'a pas de feuille à son nom, du moins pas pour l'instant. Olivier Signori est traiteur à Nogent-sur-Marne. Sa mère est d'origine italienne, alors pourquoi pas faire inscrire son nom sur le monument ?
Pour la transmission de la culture, pour mes enfants. Ils emmèneront leurs enfants voir plus tard, et peut-être leurs petits-enfants.
Transmettre la mémoire de ces immigrés italiens, c'est justement ce que souhaite le cercle Léonard de Vinci, à l'origine de ce projet. Jean-Raphaël Cessa en est son président.
Au départ, ils étaient personne, ils étaient juste des immigrés. Aujourd'hui, il y a des grandes familles qui ont leur nom, que l'on connaît. Il fallait faire un hommage à ces gens-là et donc j'ai dit on va le faire. Et il va rester, j'espère, pour quelques siècles.
Et d'ailleurs, il aimerait que les Italiens en vacances à Paris fassent un détour par Nogent-sur-Marne pour venir voir ce monument.
Pour aller plus loin, Les Ritales, le roman de François Cavana, publié en 1978.
Bonjour, c'est Violette d'Orange. Je vous fais vivre mon Vendée Globe sur France Inter.
Le Vendée Globe, avant de parler de Violette d'Orange, le bras de fer en tête, Charlie Dalin devant Johan Richaume. Ce bras de fer va-t-il tourner court ? Johan Richaume, ce matin, a informé les organisateurs d'une avarie de voile. Il a perdu une voile, il continue d'avancer, mais il n'a peut-être plus toutes les armes et les cartes en main pour concurrencer Charlie Dalin. Les deux hommes sont attendus mardi au Sable d'Olonne. Et puis derrière, Violette d'Orange, qui était avec nous hier dans ce 13-14, nous disait attendre avec impatience le passage du Cap Horn. C'est fait.
Ça y est, alors j'ai pas cette chance de pouvoir voir le petit bout de terre de feu, mais ça y est, je suis passée au niveau du Cap Horn. Et, oh, regardez les albatros, là il y en a un énorme. J'ai avec moi les petits albatros qui me suivent sur cette fin des mers du Sud et je suis trop heureuse parce que ça y est, ça marque le début de l'Atlantique. J'ai l'impression que ça va être une nouvelle course et c'est ouf quoi, j'ai réussi à aller jusqu'au Cap Horn. Yo, c'est trop bien en vrai. Franchement, c'est trop stylé et je pense que je réalise pas encore. J'aurais trop aimé voir la côte, mais bon, ça veut dire qu'il faut que je revienne une deuxième fois au moins pour voir cette terre.
Voilà, le message plein de joie, on le comprend, mais Violette d'Orange a aussi subi une avarie moteur. Problème de joint de culasse, ça ne l'empêche pas d'avancer, mais on espère que ça ne va pas l'empêcher de nous envoyer des nouvelles d'ici à son retour en Vendée, 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à partir de 13h30, notre linguiste Mathieu Avanzi avec nous. D'habitude, il s'intéresse ici même aux Français de nos régions. Là, c'est aux Français selon les générations. Son livre s'intitule « Le fabuleux destin des mots ». Si vous voulez l'interroger sur des mots particuliers et leur histoire, comment apparaissent-ils dans notre langue ? Allez-y, 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton avec Anne-Marie Amila, l'une des plus anciennes transplantées au monde que l'on retrouve aujourd'hui chez elle, dans l'Ariège. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Jean-Philippe Leclerc du journal L'Équipe et Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Jean-Philippe, le club de basket de Cholet est l'étonnant co-leader du championnat de France, mais c'est bien plus que ça.
Oui Jérôme, c'est toute une région, les Mauges, dont le centre névralgique est un bar-restaurant, le Smash. On nous y attend pour l'apéro ou pour le pouce-café, comme vous voulez.
Voilà, même si c'est Dry January, on prendra une menthe à l'eau avec vous Frédéric, une comédie.
C'est Dry January ?
Bah oui, c'est le janvier sans alcool pour ceux qui le souhaitent.
Une comédienne, Françoise Gillard de la Comédie Française. Elle reprend actuellement à Paris au Théâtre 14 son spectacle L'Événement. un seul en scène tiré du texte d'Annie Ernaux. Et avec elle, nous écouterons une chanson de Dire Straits, chanson qu'elle peine à écouter sans pleurer.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
France Inter, partenaire de La Chambre d'à côté, le nouveau film de Pedro Almodovar, Lion d'or à la Mostra de Venise.
There are lots of ways to live inside a tragedy.
Ingrid et Martha, amies de longue date, se sont perdues de vue. Des années plus tard, leurs routes vont se recroiser dans des circonstances troublantes.
I don't know what to say. I'm hoping you'll say yes. Yes to what?
La Chambre d'à côté avec Tilda Swinton et Julianne Moore, actuellement au cinéma, un film France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Encore des pluies aujourd'hui, parfois un peu de neige.
Oui, alors on a une perturbation qui arrose les régions allant du nord de la Nouvelle-Aquitaine vers le Massif central, le Jura et les Alpes avec un vent assez fort. C'est de la neige sur les Alpes avec un fort risque d'avalanche sur le nord de la chaîne. Un petit peu de neige possible aussi encore sur la Bourgogne-Franche-Comté. Ailleurs, les nuages sont souvent très nombreux. On trouve tout de même des éclaircies sur l'est des Pyrénées, la Côte d'Azur et du nord de l'Aquitaine vers le Grand Est. De nombreux cours d'eau restent sous surveillance pour les crues sur l'ouest et le nord. 7 départements sont toujours en vigilance orange. Sur la Corse, quelques averses, du vent fort jusqu'à 100 à 120 km à l'heure sur le nord, davantage au Cap Corse. Les températures, elles, sont très contrastées avec souvent 2 à 6 degrés au nord contre 10 à 21 degrés de l'océan vers le sud-ouest et la Méditerranée. Une grande douceur du côté de Perpignan, notamment 21 degrés. Et puis demain, il pleuvra près des Pyrénées et en Corse. Ce sera de la neige sur le relief du sud. Ailleurs, retour au calme avec des grisailles matinales et des gelées fréquentes au nord. Et puis ce calme va nous accompagner une bonne partie de la semaine prochaine.
Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Mathieu Avanzi.
Bonjour Jérôme.
Merci d'être avec nous, vous faites partie de la famille du 13-14, puisque vous êtes là chaque lundi pour nous parler Danser la France, du français selon nos régions. Mais là, vous êtes intéressé dans votre dernier ouvrage au français, à notre langue, à travers le temps. Le fabuleux destin des mots de 1960 à nos jours, c'est le titre de votre livre aux éditions Le Robert, livre dans lequel vous retracez l'évolution de la langue française ces 60 dernières années, avec génération par génération les mots qui se sont ajoutés, superposés, voire remplacés durant toutes ces décennies, comme des couches successives de la mini-jupe des années 60 à l'audimat des années 90, jusqu'au geek des années 2010. Certains de ces mots sont restés, d'autres pas. On en parle ensemble, c'est passionnant. 01 45 24 7000 pour vos appels, pour vos questions. Vous passez également via l'application France Inter. Mathieu Avanzi, comment est née cette idée de remonter le temps? D'habitude, vous baladez sur la carte de France. Là, vous avez décidé de remonter le temps pour voir au fond comment notre langue avait évolué.
Disons que c'est exactement comme ça que le processus a commencé. On avait balisé le français à travers les régions. Là, ouais. On voulait baliser le français à travers les générations, donc prendre plutôt que la géographie, l'histoire, et voir comment finalement la langue avait changé et qu'est-ce qui avait évolué décennie par décennie.
Vous nous dites par exemple, il y a des courbes qui sont passionnantes. L'utilisation maximale du mot magnétoscope, c'est au milieu des années 80, c'est 1985. Pour le DVD, c'est 2009. Comment vous savez ça?
Alors, ce qui est intéressant maintenant avec les outils dont on dispose, c'est qu'on peut retourner dans les bases de données et voir comment les mots ont émergé dans la presse, dans la littérature, dans les romans, sur les blogs, etc., etc. Et de voir finalement que des usages, si j'ose dire, l'un va chasser l'autre. Donc on voit par exemple sur le Minitel qui va commencer à décroître au moment où Internet remonte. Quoi.
Mais c'est-à-dire qu'on a des bases de données, on a des outils pour analyser tout ce qui est écrit dans la presse, tout ce qui est dit dans les livres, dans des conversations?
Alors,
on sait faire ça?
Dans des conversations, non. On a quelques échantillons. Ouais. En revanche, dans la presse, on peut avoir accès à toutes les archives des journaux nationaux comme Le Monde. On a des bases de données qui nous permettent de remonter jusqu'à la fin du 19e siècle et de faire des recherches.
Jusqu'à la fin du 19e. Donc vous pourriez faire ce livre jusque dans les années 1900, 1910, 1900.
Oui, on pourrait même remonter encore un peu plus tôt. Il va nous manquer peut-être un peu de données sur le 18e siècle, mais effectivement, avec les outils de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on peut aller très loin.
Ça vous fait du pain sur la planche. On va s'arrêter aux années 60. Hein, 60 jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà pas mal de boulot. Qu'est-ce que ça nous dit au fond de l'époque? Parce que vous avez classé par génération. À chaque fois, ça nous parle en fait des années 60, 70, 80, de ce qu'ont été ces époques?
Et à chaque fois, ouais, c'est exactement ça. On voit que c'est les mêmes thèmes qui sont qui sont présentes. Donc les questions d'écologie arrivent déjà dans les années 60-70, les questions sur le féminisme arrivent également dans les années 60-70. On croit que c'est des problématiques récentes, en fait, pas du tout. On a les mêmes problèmes par rapport aux anglicismes ou par rapport aux mots des jeunes, et on voit finalement, si j'ose dire, que l'histoire se répète de décennie en décennie, puisque c'est les mêmes problèmes, les mêmes concepts, et on voit que les soucis sont toujours là, quoi.
Les évolutions, effectivement, de la langue, alors on emprunte à beaucoup d'autres langues, c'est une manière de faire évoluer le français. Le brushing, ça c'est 1966, pour l'entrée dans le Robert. L'e-sport, aujourd'hui, les food trucks, la liste est très longue, ça c'est une constante, l'apport de la langue anglaise.
Les emprunts à l'anglais sont vraiment très très fréquents depuis la suite de la Deuxième Guerre mondiale, puisque c'est aux États-Unis, dans le domaine anglo-saxon, que les technologies innovent, que les artistes nous influencent, même si on voit aujourd'hui d'autres influences, notamment des influences asiatiques, que ça touche à la culture ou à la gastronomie, et il y a énormément de mots qui rentrent dans la langue française et qui viennent du coréen, du japonais, du chinois, etc.
Mais il y a quand même plus d'anglicisme.
Il y a plus d'anglicisme, ouais. Évidemment, surtout dans le domaine de la technologie, surtout dans le domaine des réseaux sociaux et de la culture.
D'où la question de Christian. Bonjour Christian.
Oui, bonjour à toutes et à tous.
Vous nous appelez du Loiret.
Je suis Christian Bachet, j'habite Marcy-en-Villette, en Sologne.
Enfin, sait bref. Tout.
Moi, j'aimerais quand même savoir pourquoi, à l'instar de nos cousins québécois, nous ne francisons pas de façon quasi systématique tous les mots anglais par snobisme, par paresse intellectuelle. Je prends un mot au hasard, spam. Mm-hmm. Bon, en français, on sait ce que c'est, mais ça veut rien dire. Nos cousins québécois
qu'est-ce
ont inventé le mot pourriel.
Pourriel.
Pourriture et électronique. Et pourquoi ne le faisons-nous pas?
Merci,
on a une langue magnifique.
Merci Christian pour cette question. Mathieu Avanzi, est-ce qu'il y a des mots à l'image de pourriel que nous suggère Christian qui ont pris racine? Est-ce que parfois ça fonctionne?
Il y a quelques mots, moi, pourriel, j'ai eu utilisé. Alors ce qu'il y a, c'est qu'au Québec, il y a une commission de terminologie qui a un impact très très fort, et donc dès qu'elle édicte des règles ou des propositions, les journalistes, les médias vont suivre, et donc le peuple va suivre. Alors effectivement, en France, on a aussi des commissions de terminologie, mais mettent beaucoup plus de temps à donner leurs indications, et peut-être par snobisme ou par fainéantise, les Français suivent beaucoup moins et donc sont beaucoup plus enclins à utiliser des mots anglais.
Il y a un exemple qui est très parlant dans le livre pour parler des transports. Les deux mots arrivent à peu près en même temps. Camping-car et auto-caravane. Il y en a un qui a manifestement mieux fonctionné que l'autre.
Ben, autocaravane est complètement passé sous les radars. Il a été proposé assez rapidement. On a eu la même chose avec podcast et balado à une époque très récente. Mais le problème, c'est que dès qu'on commence à traduire ces mots, ils sont déjà entrés dans la langue par l'intermédiaire de l'anglais. Et c'est très dur de demander aux gens de se débarrasser, par exemple, du verbe chatter pour utiliser le verbe clavarder. Pour d'autres mots, par exemple, ghoster, qui veut dire ne pas donner des nouvelles à quelqu'un sur les réseaux sociaux, on n'a pas créé le verbe fantômer, quoi.
Qui fait évoluer la langue? Est-ce que ce sont forcément les jeunes qui amènent par leur langage, par leurs emprunts, le français à évoluer ou pas?
Alors les jeunes ont une part très très importante dans l'histoire, dans l'évolution du français, puisque chaque génération va apporter son propre lot de mots. Ces mots vont pouvoir rester ou vont pouvoir disparaître. Il y a énormément de mots des jeunes des années 70-80. Être Morgane de quelqu'un, c'était un mot typique des jeunes, donc qui veut dire être amoureux de quelqu'un ou avoir un crush, on dirait aujourd'hui. Ces mots sont restés dans la langue, ils sont passés par l'intermédiaire des jeunes. Il y a également les journalistes qui font énormément changer la langue, puisque c'est eux qui, par l'intermédiaire de leur utilisation des mots, vont donner un peu le tempo, si j'ose dire.
Ce sont les jeunes, notamment aujourd'hui, qui utilisent le nouchi. Vous pouvez nous expliquer ce qu'est le nouchi?
Le nouchi, c'est
oui. Mathieu Avanzi.
Oui, c'est une variété de langue qui a un code qu'on appelle hybride, qui est parlé en Côte d'Ivoire et qui est mis notamment en avant dans des chansons par des chanteuses comme Aya Nakamura. Les jeunes empruntent énormément aujourd'hui à la francophonie d'Afrique, donc au code qui combine différents systèmes linguistiques, en l'occurrence le nouchi, qui est une combinaison de français et d'autres langues vernaculaires qui sont utilisées en Afrique. Et ces mots reviennent aujourd'hui dans la bouche des jeunes. On en a plein d'exemples dans les chansons d'Aya Nakamura.
On voit aussi, et ça c'est assez surprenant dans votre ouvrage, qu'il y a des mots qui tombent en désuétude et qui sont à nouveau utilisés. Je pense au chapitre sexualité, années 60, et le mot stérilé. le stérilet, qui est très employé en 1985 et qui est à nouveau employé en 2010. Et entre-temps, il y a un passage à vide. C'est-à-dire que les mots, ils ont plusieurs vies, en quelque sorte. Et
c'est ça, en fait. Un mot peut rentrer dans la langue, va disparaître, ou plutôt va perdre son de sa vitalité, puis peut revenir quelques années après. Alors, on peut prendre sur un empan beaucoup plus grand le mot daron, qui veut dire parent, qui était un très très vieux mot en ancien français, ou en français plutôt classique, il y a quelques siècles, et qui est revenu comme ça un peu à la mode, alors qu'il était tout à fait dépassé.
Ah bah, il est totalement à la mode, je vous le confirme, Mathieu Avanzi, ce mot daron. Est-ce qu'il est péjoratif, d'ailleurs ?
Ah bah, ça dépend toujours du contexte dans lequel on va l'utiliser. Alors, a priori, aujourd'hui, non, puisque bah, il est devenu presque commun, puisque de plus en plus de monde l'utilise. Mais c'est vrai qu'il peut être utilisé dans des contextes plutôt négatifs, péjoratifs.
Et là, encore une fois, ce sont les jeunes qui vont le chercher, ce mot-là, ce mot daron.
Ce sont les jeunes qui vont essayer de récupérer des mots pour se démarquer par rapport aux générations qui les suivent. J'ai vu revenir le mot scalpa, qui était le verlan de Pascal, qui désignait les billets de 500 francs à l'époque. Non, ceux qui sont nés après 2000, qui utilisent Scalpad, qui n'ont jamais connu les billets de 500. Quoi.
Là, on peut être sûr que ce mot ne reviendra pas, a priori.
A priori.
On n'est jamais sûr de rien.
Mais il revient pour désigner les billets de 500 euros dans certaines générations. Quoi.
Ah, certaines générations, on parle de Scalpa pour les billets de 500 euros.
C'est ça, ouais. Ouais.
Bon, je crois que je n'ai jamais vu de billets de 500 euros.
C'est rare.
Mathieu Avanzi, il y a aussi un mot, alors ça c'est très étonnant, et ça c'est le cinéma, qui peut-être a son influence aussi, hein, des personnages ou des séries. D'ailleurs, l'adjectif « ouf ». On est encore dans le verlan. Il apparaît en 1988, marche très bien à la fin des années 80, 90, disparaît. Et là, il y a ce film, L'amour ouf. Là encore, on a des mots qui peuvent revenir peut-être par des œuvres culturelles.
C'est ça, il y a énormément de mots qui ont plusieurs vies, si j'ose dire. Par exemple, le mot carabistouille qui tombait presque en désuétude il y a quelques années est repris par certains politiques et puis revient comme ça sur le devant de la scène. Il y a des mots qui sont repris par les jeunes sans vraiment savoir que ces mots existaient avant. Ils reviennent parfois par l'intermédiaire notamment des réseaux sociaux ou de YouTube ou de TikTok, et c'est assez incroyable de voir, par exemple, le mot « chum », qui est un mot québécois, s'exporte de plus en plus aujourd'hui en Europe, pour une raison, parce qu'il y a les réseaux sociaux.
Qu'est-ce que ça veut dire « chum » ?
Copain.
Un copain.
Ouais, pas forcément « chum »,« chemo », donc le verlan de moche, mais un « chum ».
Ah oui, « chemo », d'accord. Ouais,
un copain.
J'essaye de vous suivre, Mathieu Avanzi.
C'est pas toujours facile.
Il y a beaucoup de mots dans votre tête, du français et autres, d'où la question de Stéphane de Quimper sur l'application France Inter. Quelle est la frontière entre la faute et l'évolution d'usage au risque de l'appauvrissement de notre langue ? Exemple, nous dit-il, avec le mot « son » qu'on utilise de plus en plus pour désigner une chanson. Tel rappeur, c'est souvent le cas, a produit ce son. Or, ce mot, nous dit Stéphane, son n'est pas vraiment approprié et moins précis.
Bah, disons qu'en fait, la faute, dans l'ensemble de l'évolution de la langue, est une des prémices, si j'ose dire, à l'évolution. Par exemple, si on a l'expression entre quatre yeux, hein, il n'y a pas de S normalement pour cette liaison, et ce mot s'est implanté dans la langue. Au départ, effectivement, c'était une faute, et puis il est resté. Et donc, ce qu'on observe dans l'évolution de la langue, c'est que souvent, ce qu'on considère comme une faute ou comme un annexe à la norme va devenir la norme de plus tard, en fait.
Il y a un mot qui est assez étonnant, c'est le mot « cool ». C'est presque une énigme, ce mot, parce qu'il ne disparaît jamais. Il est insubmersible.
C'est ça, c'est un mot qui apparaît dans les années 70, qui ensuite se maintient dans les années 80, notamment en raison, bah, on en parlait tout à l'heure, des médias, enfin ici, non pas de l'art ou du cinéma, mais de la publicité. Et puis, ce mot va rester, même s'il avait connu différents dérivés, coolos, cool bar, etc. Et puis, bah, aujourd'hui, on continue de l'utiliser alors qu'il était destiné à mourir, puisque c'était un mot de jeune, et finalement, toutes les générations s'en sont emparées, et il a passé ce stade d'être un gars, si on veut, et il s'est maintenu.
C'est-à-dire que quelqu'un qui a grandi dans les années 60 peut l'employer comme quelqu'un qui a grandi dans les années 2000 ou 2010.
Exactement, et on n'est pas connoté de boomer ou de Gen Z ou je ne sais quoi. Si on l'utilise, il n'est plus connoté, il est vraiment rentré dans la langue.
Ce qui est assez fascinant dans votre livre, c'est à quel point les mots marquent l'époque. Les années 80, l'irruption des loisirs, on a spa et jacuzzi. Les années 80 encore, ce sont aussi des années de crise, surendettement, repreneur, précarisé. C'est-à-dire qu'immédiatement, on a ces marqueurs-là.
Effectivement, on va avoir au fur et à mesure des discours politiques, des événements politiques, des événements nationaux, des mots qui vont entrer. Hein, la marche des beurs, par exemple, dans les années 80, va faire entrer le mot beurre verlan d'arabe dans le dictionnaire. Et c'est comme ça, finalement, que les mots, la langue française, va marquer des époques, va marquer des générations, et on va associer du lexique à des époques particulières.
on a les évolutions économiques, je l'ai dit, assez fascinant de voir qu'en ce moment, les hypermarchés ont de moins en moins la cote, hein, les gens ne vont plus dans les très très grandes surfaces. Et qu'est-ce qu'on constate ? 2012, le mot supérette devient plus employé que le mot hypermarché.
Effectivement, en fait, on a vu au tout début comment on
passe... C'est presque avant, en fait. Le changement dans l'utilisation du mot est presque, précède presque l'évolution des pratiques.
C'est ça, en fait, les bases de données vont nous montrer comment les gens finalement changent leurs usages et à partir de quel moment la langue précède ou suit assez rapidement, toujours dans le même emploi de temps, les changements sociaux.
On a le temps pour une dernière question, celle de Catherine de Nantes. Bonjour Catherine.
Oui, bonjour.
Vous avez un mot dans l'oreille ?
J'appelais justement parce que je venais d'écouter Violette d'Orange qui disait qu'elle avait passé le Capcorn et que c'était trop stylé.
Ah.
Et c'était justement le changement d'usage d'un mot. Stylé, c'est pas. Au départ, c'est pas, ça ne veut pas dire chouette.
Eh oui.
Mais voilà.
Ça donc, renvoie à l'allure, à l'élégance.
Oui, plutôt. Ouais. Voilà. Merci. Et donc, il y a plein de nouveaux mots qui arrivent, comme chômé, comme stylé, comme. Que je ne comprends pas.
Merci Catherine pour cette question. Mathieu Avanzi, stylé.
Effectivement, il y a ce qu'on appelle des glissements de sens, donc des mots vont prendre vont avoir un certain sens, un stylet qui a du style, et puis finalement par métaphore ou par extension, stylet va vouloir dire cool et ne plus s'appliquer directement qu'au style. Et ça, c'est aussi un des moteurs de l'évolution de la langue qui est très difficile à saisir parfois.
Je peux dire que ce livre est stylé. Est-ce que c'est français ?
Volontiers, ouais.
Bon, ok, en tout cas, vous le validez. Mathieu Avanzi aux éditions Le Robert. Le fabuleux destin des mots de 1960 à nos jours, 60 années de langue française. Merci, cher Mathieu, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Rendez-vous lundi pour votre chronique C'est la France. On se replongera dans le français de nos régions. 13h46 sur Inter. Notre feuilleton, dernier épisode aujourd'hui avec Anne-Marie Amila, l'une des plus anciennes transplantées au monde. Une véritable force de la nature puisqu'elle a été greffée cœur-poumon en 1988. Et depuis 36 ans, elle est engagée dans la promotion pour le don d'organes. Et pour nous en rendre compte, nous la retrouvons chez elle, dans sa maison de Foix, dans l'Ariège. Ce jour-là, elle accueille des amis à déjeuner. Elles font partie de l'association des Sœurs Optimistes, mouvement de lutte pour les droits des femmes. Et parmi elles, il y a Ghislaine Vergeau, qui a perdu sa fille dans un accident de la route.
Tu veux qu'on t'aide, Anne-Marie ?
Non. Ça, je te le mets là parce que je ne sais pas comment ça s'ouvre.
Alors ça, qu'est-ce que c'est, Anne-Marie ?
Ma boîte à malice. Ma boîte à médicaments. Ah oui, j'en ai tellement que je me suis fait une liste parce que le matin, j'en ai 2, 4...
Bonjour, je m'appelle Christine Daguin, je suis retraitée audioprothésiste et j'ai connu Anne-Marie quand elle faisait des conférences sur les dons d'organes.
2, 4, 5, 6...
De suite, il y a eu un feeling.
7, 8 le matin.
Pour moi, c'est une héroïne du quotidien.
2, 3, 4, 5 à midi, 4, 5 le soir. Pour les reins, pour le cholestérol, pour la tension, des vitamines... Et puis l'anti-rejet à 8h, 10h et 20h.
Je m'appelle Ghislaine Vergeau, j'ai 66 ans. Alors en fait, ma fille était en études de sanitaire et sociale.
On faisait de l'information sur le don d'organes et à la fin de l'intervention, je distribuais des imprimés. Et dans cet imprimé, il y avait le oui et il y avait le non. On laissait le libre choix aux élèves. Voilà.
Et donc, elle nous avait dit que, voilà, elle avait pris sa carte et donc elle était positionnée et elle souhaitait qu'on le sache. Et nous, ben, on a dit qu'on était ben, tout à fait d'accord avec elle et que si jamais un jour il arrivait quelque chose, ben, qu'on respecterait son choix. Elle obtient son BEP et malheureusement, Nathalie décède dans un accident de voiture en juillet. Et là, on nous reçoit parce qu'il faut aller vite. Il demande si on est d'accord pour faire un don d'organes. Et bien sûr, nous, on a dit oui, puisque c'était le souhait de notre fille. On savait, et heureusement qu'elle nous en a parlé. Parce que quand vous êtes parents, on n'imagine pas ce que ça peut faire. Alors on nous dit, est-ce qu'on pourrait donner deux reins ? On pourrait donner deux reins ? Et les yeux, et là, nous, on dit, on donnera deux reins, mais même si Nathalie était pour, on ne pourra pas donner ses yeux. On s'est excusé, mais on ne pouvait pas. Les yeux, on ne pouvait pas.
On ne prélève que la cornée. Si on t'avait dit la cornée, peut-être que ça serait... Je t'aurais dit oui.
Peut-être qu'on nous l'a dit, mais oui. C'était trop pour nous.
Mais ouais, c'est sûr. Ça, quand ça arrive, un malheur pareil, on ne sait pas comment on réagirait. On ne sait pas. Moi, sur mes trois enfants, il y en avait un qui était contre.
Contre le don d'organes.
Oui, parce qu'il me disait, maman, moi, je ne veux pas qu'on me touche. Et c'est vrai que d'en avoir parlé avant, ça aide. Quand le malheur vous tombe dessus.
Bon, finalement, on sait qu'on a, redonné vie à deux autres jeunes. Deux jeunes gens qui ont bénéficié des reins. On a retéléphoné pour savoir si ça s'était bien passé pour les personnes qui avaient reçu. Et nous a dit oui, bon, c'est vrai qu'on avait quand même demandé si on pouvait connaître. Et on nous a dit non, mais je comprends. Hein, c'est, mais de savoir que notre fille vit dans quelqu'un, c'est un grand bonheur. Elle a permis de redonner vie à quelqu'un d'autre. Et ça, pour nous, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel.
Une semaine dans la vie d'Anne-Marie Amila. Feuilleton signé Cécilia Arbonnat, réalisation Stéphane Ronxin, à retrouver sur franceinter.fr.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France à 13h50, le vendredi, la France du sport avec Jean-Philippe Leclerc du journal L'Équipe. Jean-Philippe, vous nous emmenez aujourd'hui dans un fief du basket français, dans les Mauges.
Alors si du basket vous n'aimez que la NBA, les stars hollywoodiennes qui secouent leurs bijoux durant le Money Time, alors passez votre chemin car aujourd'hui je vous emmène au Smash, le bar-restaurant mythique des supporters du Cholet Basket, actuel co-leader du championnat de France. Le Smash c'est à la fois le quartier général des fans du Cholet Basket, mais aussi l'annexe du siège social, un vrai petit musée et le restaurant du centre de formation. Mais avant de pousser la porte du Smash et de s'accouder au comptoir pour déguster avec modération un bon vieux rosé d'Anjou, un petit point géographique. Où est Cholet ? La réponse avec cet extrait d'un reportage d'Antenne 2 qui date de 1988, alors que l'ancien joueur de NBA Kenny Austin vient de débarquer chez les Rouges et Blancs.
Comment voyez-vous qu'un Américain connaisse Cholet, sous-préfecture du Maine-et-Loire, une ville pourtant bien sage, s'enflamme tous les samedis soirs pour une équipe de premier plan ?
Comment Cholet, 54 000 habitants, est-il devenu une place forte du basket français ?
Grâce essentiellement à son centre de formation, car même si l'Amérique semble bien loin du Maine-et-Loire, aucun autre club en France, et peut-être même en Europe, n'a formé autant de basketteurs qui ont joué en NBA. Ils sont 8, dont Antoine Rigaudot, Nando Docolo, Killian Hayes ou Rudy Gobert, avoir défendu les couleurs des Dallas Mavericks, Detroit Pistons ou des Timberwolves du Minnesota. Sur le plan national, Cholet n'a été qu'une seule fois champion de France en 2010, mais il appartient à un club ultra sélect. Il ne compte en effet que 5 membres dans nos 3 plus grands championnats, le PSG en foot, Toulouse et Clermont en rugby, Villeurbanne et donc Cholet en basket. Non Jérôme, désolé, Limoges, votre équipe de cœur n'appartient pas à ce club très privé.
Visiblement, oui.
Mais vous allez quand même deviner le point commun de ces 5 équipes.
Alors, ils ne sont pas tous championnes d'Europe. Non, elles n'ont jamais connu la relégation en deuxième division.
Eh oui, bravo Jérôme, quel talent. Fondé en 1975, le Cholet Basket a mis seulement 12 ans pour accéder à l'élite qu'il n'a donc plus quitté depuis. Son histoire est étroitement liée à celle du Smash. Le bar-restaurant se trouve juste en face de la Meilleraie, la salle ou plutôt le hangar amélioré qui accueille les matchs des Rouges et Blancs. Pour Antoine Rigaudot, né et formé à Cholet avant de devenir vice-champion olympique avec les Bleus en 2000 à Sydney, le Smash c'est l'ADN et l'identité de cette région des Mauges, la région de Cholet, où les gens viennent après leur travail ou après un match de basket pour se retrouver autour d'une table et d'un verre. Alors le décor, les murs sont recouverts d'affiches et de photos, les coupes et les trophées sont encore plus nombreux que les bouteilles. C'est là qu'un jeune vient signer sa licence, que les espoirs du centre de formation prennent leur repas, que les joueurs pros accordent leurs interviews. Des bouts de chou du mini-basket aux stars de plus de 2 mètres, un seul cri de ralliement, rendez-vous au Smash.
Et pourtant, depuis septembre, ce bar, donc le Smash, avait fermé ses portes.
Hélas oui Jérôme, le dernier patron du Smash est parti en retraite et on a bien cru qu'il n'y aurait pas de rebond. Heureusement, 5 copains ont décidé de reprendre l'affaire. On va citer leurs noms, Sébastien Rouchette, Rodolphe Buffard, Julien Gabard, Jocelyn Denis et Christophe Rambaud, que des quarantenaires, chefs d'entreprise, marchands de biens, patrons de discothèques ou de restaurants, qui ont tous porté à plus ou moins haut niveau les couleurs du Cholet Basket. Le Smash va rouvrir, mais avec un nouveau nom.
Bah son autre nom, peut-être le Dunk ?
Non Jérôme, le 5.
Ah !
Comme le nombre d'associés et aussi comme le nombre de joueurs d'une équipe de basket.
Et ça je l'avais.
Le Smash est mort, vive le 5, et réouverture prévue pour fin avril, début mai.
Eh bien je vous suivrai pour aller découvrir le Smash à Cholet. Merci Jean-Philippe Sinclair du journal L'Équipe.
Pas le Smash, le 5.
Oui, l'ex-Smash, le nouveau 5. c'est bien ça. Du journal L'Équipe, de C'est la France. Ah, c'est une chanson. Votre invité aujourd'hui, Frédéric Pommier, c'est la comédienne Françoise Gillard de la Comédie Française.
Elle est née en Belgique, elle est entrée à la Comédie Française en 1997 et elle est actuellement à l'affiche du Théâtre 14 à Paris dans l'événement spectacle tiré du roman d'Annie Ernaux. Et c'est une chanson pacifiste qu'elle a souhaité que l'on écoute. Brothers in Arms de Dire Straits.
Mon père était fan de ce groupe Dire Straits et... Quand on partait voir mes grands-parents dans le sud de la Belgique, dans la Gaume, alors que nous on habitait du côté de Charleroi, en Belgique, mon père mettait cet album dans la voiture, c'était encore la voiture avec des cassettes. Et la première fois qu'il nous a fait écouter cet album, cette chanson, à l'époque je devais avoir 12 ans, 11, 12 ans, elle m'est allée droit au cœur, mais vraiment, elle me procurait une émotion alors que je ne comprenais pas l'anglais à l'époque, donc je ne savais même pas de quoi ça parlait. Et donc, pour moi, c'est vraiment lié à ce voyage, parce qu'on a beaucoup écouté cet album en faisant ce voyage jusqu'à chez mes grands-parents. Et puis plus tard, évidemment, j'ai appris la traduction de la chanson, du thème de la guerre, que finalement, la guerre, c'est toujours faire la guerre à ses frères d'armes. Et cette chanson, pour moi, elle est universelle sur ce qu'elle raconte sur les conflits, la bêtise de la guerre et des conflits. Et je pense qu'ils ont fait une espèce de chef-d'œuvre dans cette chanson. These mist-covered mountains are home now for me. But my home is the lowlands. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms.
C'est en 1985 qu'est sortie cette chanson de Dire Straits, Frédéric.
Sur le cinquième album du groupe, auquel elle a d'ailleurs donné son titre. Et cela fait donc exactement 40 ans qu'elle bouleverse Françoise Gillard.
Où que je sois, si j'entends cette chanson, elle me provoque une émotion vraiment extrêmement profonde et je peux me mettre à pleurer. Et en plus maintenant, elle est teintée de la nostalgie de ces voyages en Belgique que je ne ferai plus puisque mes grands-parents ne sont plus là. Et donc c'est ça qui est magnifique dans les chansons, c'est qu'elle accompagne un moment de votre vie. Et quand vous la réécoutez plus tard, elle redéclenche des tas de souvenirs.
Il y avait qui dans la voiture ?
Il y avait mes parents et il y avait mes deux sœurs. Voilà, on était à trois derrière et chaque fois, en plus, en grande pudique, j'essayais de ne pas montrer que cette chanson m'émouvait. Et il y avait des moments où je me disais, oh non, on ne va pas écouter cette chanson, hein, parce que je savais que ça allait provoquer quelque chose chez moi. Donc c'est une chanson qui a continué à m'accompagner. Et voilà, c'est une grande chanson.
On a l'impression que les chansons de cet ordre-là, les chansons qui portent un message aussi universel, elles ne vieillissent pas.
Non, parce qu'elles sont intemporelles. Il suffit de regarder ce qui se passe autour de nous. En ce moment, cette chanson, elle dit « Pourtant, c'est écrit dans la lumière des étoiles et dans chaque ligne de vos mains que nous sommes fous de faire la guerre à nos frères d'armes. Il y a tant de mondes différents, tant de soleils différents. Nous n'avons pourtant qu'un seul monde. » Et je pense que depuis la nuit des temps, les hommes se font la guerre et j'ai l'impression que malheureusement, ils se la feront toujours. Il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui. Et oui, elle a quelque chose d'universel. Et la paix qu'elle réclame et la bêtise de la guerre qu'elle met sous un phare sera intemporelle. C'est pour ça que cette chanson, elle sera là bien après nous et je pense qu'elle continuera à faire son chemin. Now the sun's gone to hell.
C'est une chanson à laquelle vous pensez de temps en temps ?
Oui, oui, tout à fait. Mon père m'a dit un jour, mon père qui est quelqu'un d'extrêmement pudique, m'a dit un jour, mais tu sais Françoise, les plus belles chansons sont les chansons les plus tristes. Je le rejoins sur cette chose-là. Je pense que les plus belles chansons sont les chansons les plus tristes. C'est terrible, mais c'est comme ça. En tout cas, ce sont celles qui restent les plus tristes et les plus poétiques. We're fools to make one on a brother. In
Dire Straits, Brothers in Arms. C'était donc Frédéric, le choix de Françoise Gillard de la Comédie Française.
Françoise Gillard que vous pouvez retrouver dans l'événement Un seul en scène qu'elle joue jusqu'au 25 janvier au Théâtre 14 à Paris.
Merci Frédéric et à lundi. Encore un peu de Dire Straits pour les remerciements de cette semaine à la technique. Florian Dorimini, Thomas Allard et Romain Leborgne. Rédaction en chef Estelle Schmitt, Sébastien Sabiron et Cécilia Arbonna, assistée de Swad Bellani, Rachid Zourdani, Nicolas Sabat et Stéphane Rousset, notre chargé de programme Claire-Sophie Collet. Merci également à nos standardistes. Bonjour Mathieu Vidard.
À la classe, hein, la désannonce avec un bassiste de Dire Straits derrière vous, hein, Jérôme Cadet, bravo.
Hein. Ça vous fait envie, hein?
Ah oui, carrément.
Il n'y a pas de copyright, vous pouvez y aller.
Okay.
Quel est le programme, cher Mathieu?
Notre invité, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas eu dans l'émission, c'est un grand retour, le mathématicien et écolo, Cédric Villani.
Nous vous écoutons avec grand plaisir.